Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
Bonsoir, Notre-Dame-des-Landes se fera-t-il? C'est l'inconnu, ou presque, hein, au lendemain de la remise du rapport par les experts. Alors, le gouvernement affirme qu'aujourd'hui, aucune décision n'est arrêtée. Est-ce que le projet ira jusqu'à son terme? Est-ce que ce sera le plan B, c'est-à-dire le réaménagement de l'actuel aéroport? Réponse dans quelques semaines. Oui, Nantes. Nantes, c'est l'un des 160 aéroports français. Oui, 160, vous avez bien entendu, justement. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que tous ces aéroports sont utiles? Est-ce qu'il faut en construire de nouveau? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Je vais essayer d'en placer une dans ce débat ce soir. Il y a Pascal Perry, économiste à la tête de son cabinet de conseil PNC, grand spécialiste des transports. Nicolas Bouzou, donc qui fondateur du cabinet Asterès, hein, cabinet de conjoncture, entre autres, d'études sur un certain nombre de secteurs. Et également Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, la FNAM. Le voyagiste Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde. Et puis avec nous également Nicolas Polissen, qui est le délégué général de l'Union des aéroports français, qui couvre, qui supervise, qui chapeaute tous les aéroports, du plus gros de Charles de Gaulle, enfin aéroport de Paris, jusqu'au plus petit, les aéroports qu'on peut trouver à Dijon, notamment dans l'Orne par exemple. Voilà. Alors, cette affaire de Notre-Dame-des-Landes, je ne crois pas qu'on y consacre toute l'émission, à part redébattre à nouveau pour savoir ce que va choisir Emmanuel Macron, pour savoir si la démocratie sera respectée ou pas, pour savoir si on doit évacuer tous les fauteurs de troubles de la ZAD. Bon, mais qu'est-ce que cette affaire, elle révèle quelque part sur le maillage du territoire en matière d'aéroport? Tiens, Pascal Perry, s'il vous plaît.
Nantes, c'est un cas un peu particulier, parce qu'il y a déjà un aéroport qui est à Nantes Atlantique. C'est un aéroport urbain qui connaît environ 170 jours par an de sous-capacité, c'est-à-dire qui n'est pas capable de servir la demande, qui refuse assez régulièrement des vols. C'est un territoire qui est en croissance lui-même. 15 000 franciliens quittent chaque année la région Île-de-France pour aller vivre dans l'Ouest notamment et dans la région de Nantes. Donc c'est un territoire qui prospère avec un vrai tissu économique. Il y a beaucoup de sous-traitants d'Airbus, il y a de l'industrie agroalimentaire, il y a une demande de transport. C'est aussi une ville avec plus de 200 000 étudiants, un bassin de population significatif.
Comme ça, même si je voulais pas y revenir, qu'il faut faire Notre-Dame-des-Landes.
Non, je veux dire par là que c'est une ville qui doit se poser la question des mobilités aériennes, et le Notre-Dame-des-Landes, c'est une façon de se poser la question, oui.
Nicolas Bouzou, au travers de cette affaire Notre-Dame-des-Landes et cette question que je pose, est-ce qu'il faut encore construire des aéroports? Est-ce qu'il y en a pas trop?
Ben, ça nous dit quelque chose de très intéressant. Ça nous dit que, au fond, je pense que le temps des grandes infrastructures, il est un peu révolu, parce que on a eu aussi beaucoup de débats sur les LGV. On peut lier les deux. C'est-à-dire que, au fond, pendant des années, de la fin de la guerre à il y a une poignée d'années, on considérait que les infrastructures, c'était nécessairement bien, que ça faisait du développement économique, c'était théorisé, il y avait des effets multiplicateurs, etc. Bon, ça, je dirais que c'était dans une période, on était dans une période dans laquelle les ressources publiques étaient relativement abondantes. On a un peu changé de paradigme aujourd'hui, et je pense que c'est beaucoup mieux. Au fond, la question, alors je vais pas répondre à Notre-Dame-des-Landes, vous inquiétez pas, mais juste, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut faire Notre-Dame-des-Landes? La question est assez mal posée. C'est plutôt dans un contexte de ressources publiques rares. Est-ce qu'il y a des arguments économiques solides pour faire un nouvel aéroport en France? Vous voyez, on peut se dire de la même façon, les lignes LGV, est-ce qu'il y a des arguments économiques solides pour faire de nouvelles lignes LGV en tenant compte, bien évidemment, du coût de ces infrastructures? Et vous voyez que si on pose des questions de cette façon-là,
la réponse, je voulais pas y répondre, mais enfin, de mon point de vue, la réponse, c'est pour les aéroports. On va se demander est-ce que ces aéroports sont rentables, est-ce que s'il n'y a pas un coût excessif aussi pour la collectivité. Alain Battisti, à la tête de la FNAM.
Écoutez, l'aéroport, il est à 5 millions de passagers aujourd'hui, donc c'est un bel aéroport qui croît. Et il n'est pas financé sur ressources publiques. Mmh. Et s'il devait y avoir un nouvel aéroport, c'est pas du tout des ressources publiques. Donc le problème de l'économie, c'est le problème simplement d'avoir des clients. Nous, on les appelle des passagers. Ces clients ont des besoins au départ de Paris, bien sûr, mais aussi au départ de province. Et est-ce qu'aujourd'hui, les infrastructures permettent de répondre à ce besoin de transport? Oui, à partir du moment où on a des compagnies aériennes et des aéroports. Alors, s'il faut choisir entre un aéroport ou un autre, c'est pas le choix d'une compagnie aérienne. On pose nos avions là où il y a des pistes. Et après, c'est bien sûr à l'État et au territoire de décider là où doivent se trouver les aéroports.
Jean-François Rial, Voyageurs du Monde.
Alors, je ne vais pas répondre à la question de Notre-Dame-des-Landes. Je vais faire ce que vous avez demandé. Je vais essayer d'élever un peu le débat plus large.
Merci pour les autres.
Non. Par rapport à mes confrères qui l'ont fait. En fait, moi, je pense que ça pose le problème de la décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, la décentralisation sur de certains sujets, c'est génial. Puis sur d'autres, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, toutes les régions, toutes les villes, toutes les préfectures veulent leur aéroport. Et Notre-Dame-des-Landes, quand il a été pensé comme un grand aéroport international où on allait faire partir du long courrier, où on allait faire partir un certain nombre de choses. Alors ensuite, il y a eu les conditions économiques qui ont démontré que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc on est revenu sur un produit point à point, etc., etc. Mais en réalité, c'est un peu comme le tourisme, vous voyez. On a des problèmes de promotion internationale. Mais on donne des budgets au conseil départemental de l'Essonne pour faire la promotion internationale de l'Essonne. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je pense que avant qu'on débatte du sujet où on va visiblement ne pas être tout à fait d'accord entre nous sur Notre-Dame-des-Landes, où évidemment il y a un problème de capacité, mais en fait il y a deux alternatives. Hein. Où est-ce qu'on agrandit l'un, où est-ce qu'on en construit un nouveau. Le vrai problème, moi, que ça pose, c'est ça. C'est-à-dire que au bout du bout. Est-ce qu'on doit donner ce pouvoir aux collectivités locales et est-ce qu'on ne doit pas, sur un certain nombre de sujets, revenir en arrière sur la décentralisation? Parce que quand M. Battisti dit que ça n'a rien coûté aux contribuables, aujourd'hui, Nantes Atlantique ne coûte rien aux contribuables, mais il a coûté. Il a coûté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nantes Atlantique est équilibré, comme Rennes est équilibré, mais ils ont été construits avec des fonds publics et l'aéroport de Lorient ou de Quimper est déficitaire et par qui il est... guillemets, on bouche les trous, par les fonds publics. Donc la question des fonds publics, elle est majeure dans cette affaire.
Comme l'hôpital.
Exactement.
Il y a d'hôpitaux. On va cesser de construire
bien sûr.
Bien sûr. Enfin, oui.
Bien sûr, oui, exactement. Bien sûr. C'est une très bonne comparaison de la part de Pascal. Aujourd'hui, comme le président de l'hôpital, c'est le maire, eh bien le maire, lui, il a tout intérêt à expliquer à sa région et à ses citoyens qu'il va créer des emplois en créant des infrastructures inutiles.
C'est ça. Bon, Nicolas Polissen, la décentralisation, ce que laisse entendre quelque part Jean-François Rial, c'est que la France, c'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, on a des gros aéroports, Francfort, Munich, qui sont pas des capitales fédérales, qui sont des capitales régionales, et qui drainent un trafic international. En France, on n'a pas de trafic international, à part Paris, et un petit peu Nice.
Ça dépend ce qu'on appelle le trafic international.
Le vrai trafic international, le courrier. Je ne parle pas des Baléares ou de la Tunisie ou du Maroc.
Pour les vacances. Sur le moyen courrier, pas seulement pour les vacances. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les grands aéroports régionaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Nice, se développent beaucoup. Ils ont des taux de croissance souvent à deux chiffres. Et il y a 20 ans, qui aurait pu dire que ces aéroports se développeraient tout autant. Ils ont encore d'ailleurs des marges de manœuvre. Pour revenir à Notre-Dame-des-Landes, ce que nous trouvons intéressant dans ce débat, c'est que c'est un débat de territoire. Et on voit bien qu'un aéroport est ancré dans un territoire et qu'il est au cœur de l'attractivité d'un territoire. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner. C'est quelque chose qui est important pour les exploitants aéroportuels.
Oui, alors il est au cœur des territoires. Très bien. Mais je vais quand même donner quelques chiffres quand même. Et on verra si tout ça, évidemment, est... cohérent à chaque fois. Les gros aéroports, je disais, il y a 164 aéroports ou aérodromes en France. 90% du trafic, il est concentré dans 10 aéroports. Les principaux, Paris-Charles de Gaulle et Orly. Mmh. 66 millions pour l'un, 31 millions pour l'autre. Allez, 100 millions pour les deux, quasiment. Nice, 12 millions. Nice, c'est quasiment un vol sur 5 hors Paris. Lyon, ensuite, 9 millions et demi. C'est Lyon, un vol sur 7 hors Paris. Marseille, 8 millions et demi. Toulouse, 8 millions. Balmulhouse, 7 millions. Et puis ensuite, toutes sortes de petits aéroports, Tarbes, Le Mans, Laval, Megève, Courchevel, Valenciennes, en queue de peloton parmi les aéroports les moins fréquentés. Et quand je dis les moins fréquentés, on a à peu près 2200 passagers par an.
Ce ne sont pas des aéroports, ce sont des aérodromes.
Non, il y a un abus de langage là. Mais je vais vous citer un autre.
Alors, j'ai cité Fleur de l'Orne et Argentan, dans l'Orne tous les deux, ça se touche. Dijon, 1500, Belle-Île-en-Mer, 1300.
Il n'y a pas de vols commerciaux. Ouais. Non, mais il y a pratiquement pas de vols commerciaux. Moi, je pense qu'on est appelé aujourd'hui dans le domaine de la décentralisation. Bon, le Premier ministre aujourd'hui était à Cahors et il nous administre une leçon de girondisme. Je trouve que c'est très bien d'ailleurs, dès lors qu'il y a un peu de responsabilité dans les territoires. Moi, je suis partisan de cette décentralisation. Mais je pense qu'il faut faire un travail de dentelle assez fine. C'est-à-dire, il y a des endroits où on a besoin de mobilité. Il y a des endroits où elle est absolument essentielle pour des raisons qui peuvent être économiques, sociales ou culturelles. Et je vais vous citer l'exemple d'un aéroport qui est parti de zéro pratiquement. C'est l'aéroport de Limoges. Moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse dans le sud-ouest et je passais ma jeunesse à voir passer des trains vides. Et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, on transporterait 250 000 Anglais chaque année à Limoges. En réalité, on est dans un domaine où l'offre produit la demande. Grâce au low cost, grâce au développement du tourisme, grâce à l'écosystème touristique qui s'est développé dans les régions, on voit que des aéroports qui n'avaient aucun avenir, si ce n'est la liaison de point à point avec la capitale, avec le centre de l'étoile, ont participé au succès du territoire.
Comme Bergerac aussi.
Bergerac, Nord, avec 450 000 ou 500 000 passagers par an.
Nicolas Polissane, qui représente l'Union des aéroports de France.
La question n'est pas celle du nombre d'aéroports. Y a-t-il trop d'aéroports en France? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est celle de la vocation de chaque aéroport. Le président du CSAC, Gilles Savary, a coutume de dire que il n'y a pas d'aéroport condamné. Il n'y a pas d'aéroport condamné, il n'y a que des aéroports oubliés. Et il ne faut pas réduire les aéroports au trafic commercial. Vous avez des plateformes qui sont spécialisées dans l'aviation générale et d'affaires.
À quoi on voit qu'un aéroport, il est utile ou pas?
Mais ça dépend de la fonction que vous assignez à chaque aéroport. Vous avez des aéroports qui sont des aéroports d'aviation générale et d'affaires. Vous avez des aéroports qui se spécialisent dans l'aviation légère. Il y a tous les aéroclubs aussi. Il y a une fonction d'animation du territoire. Il y a des aéroports également qui sont des zones aéro-industrielles. Il est important aussi pour toutes les activités aéronautiques que l'on a dans notre pays d'avoir des aéroports qui peuvent accueillir les industries de maintenance, de peinture, des appareils, etc., etc. Et le grand problème que la France a connu, c'est que la révolution aéroportuaire de 2004-2005, la décentralisation, quand on a transféré la plupart des aéroports aux collectivités, un choix n'a pas été fait pour les politiques aéroportuaires, quelle collectivité locale pourrait développer une vision et une politique aéroportuaire. Aujourd'hui, avec la loi NOTRe qui a donné les compétences économiques aux régions, là, aujourd'hui, les régions peuvent développer, élaborer une politique aéroportuaire, une vision aéroportuaire. C'est ce que fait la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ou l'Occitanie.
Et lors de la fusion des régions, on a réfléchi à marier des aéroports ou pas? Lorsqu'on a construit ces énormes grosses régions il y a deux ans, est-ce qu'on a pensé à marier des aéroports ou on a continué à laisser tous ces aéroports?
Non, parce que là, ce qui est important, c'est que c'est aux nouvelles régions de définir une politique aéroportuaire et de définir quelle est la vocation de chaque aéroport. Tout aéroport n'a pas vocation à faire du trafic commercial. C'est
Nicolas Bouzou, on entend Jean-François Réal dire, on entend empiler. Moi, je reprends mes exemples quand même. Dans l'Orne, Flers de l'Orne, Argentan. Il y a deux aéroports au aérodrome, nous dit Pascal Perry. Caen, Deauville, Le Havre, Rouen, la Normandie, tout compris, c'est 250 000 passagers par an. Dijon et Dole, dans le Jura. Voilà, Bretagne, le Grand Ouest. On a Quimper, Lorient, Brest, Lannion, Dinard, Rennes et Nantes. Franchement, est-ce que tous ces aéroports sont complémentaires?
Non, mais il a raison, Jean-François Rial. C'est-à-dire que la prise de décision, moins maintenant d'ailleurs, on le voit, c'est pour ça qu'on a un débat, mais la prise de décision en matière d'infrastructure pendant très longtemps, elle a été politique beaucoup plus qu'économique, avec des arguments qui étaient des arguments faibles. Je vais vous en donner un. L'argument qui est toujours mobilisé par les élus consiste à dire, on a besoin d'avoir un aéroport, on a besoin d'avoir une gare, on a besoin d'avoir une liaison à TGV, parce que c'est bon pour l'économie du territoire. Vous n'avez, écoutez-moi bien, vous n'avez aucune étude économique qui montre qu'il y ait un lien entre les infrastructures de transport et le développement économique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire.
Non.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. C'est-à-dire, simplement, il ne faut pas mobiliser de mauvais arguments. Quand je vais dans l'Ouest, moi, j'ai une vision un tout petit peu mitigée par rapport à Notre-Dame-des-Landes, je suis persona non grata dans les chambres de commerce, etc., dans l'Ouest. Parce qu'on me dit, si on n'a pas cet aéroport, on va condamner l'Ouest de la France. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas un bon argument. On peut sans doute faire des aéroports, des gares, des lignes LGV, mais il, vous voyez, il faut quand même qu'on ait une vision, qu'on arrive en France, mais on y vient, hein, avoir une vision de l'évaluation économique des investissements qui soit plus fine. Et ça vaut aussi pour le privé, parce que je vais vous dire, à la limite public-privé, c'est indifférent. C'est l'épargne qui finance l'investissement. Cette épargne, il faut savoir comment est-ce qu'on l'alloue de la façon la plus optimale. C'est aussi la raison pour laquelle, au passage, vous m'avez pas posé la question et je vais déborder encore plus, mais je suis aussi très réservé, plus que réservé, ça me vaut beaucoup d'inimitié, sur l'organisation des Jeux Olympiques. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, le monde traverse la plus grande vague d'innovation depuis la Renaissance. Moi, l'épargne des ménages, je suis pas sûr que ce soit très judicieux de l'investir pour faire de la France une base de loisirs. Vous voyez, comment est-ce qu'on alloue les parts d'investissement, c'est pas un autre sujet. Non, mais c'est une autre illustration.
C'est une autre, voilà, une autre illustration. Allez, qui prend? Alors, Alain Battisti.
Je suis vraiment en désaccord avec ce qui vient d'être exprimé. Il n'y a pas trop d'aéroports en France. Quand on prend les grandes économies européennes ou mondiales, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup plus d'aéroports en France par habitant ou par grande agglomération qu'il y en a en Allemagne, aux États-Unis.
Un chiffre en France, un aéroport pour 360 000 habitants, au Royaume-Uni 1 200 000, c'est-à-dire 3 fois moins d'aéroports, en Allemagne 4 300 000, 12 fois moins d'aéroports en Allemagne.
Mais enfin, 10 fois moins de communes en Angleterre.
Oui, et attention, on a la France d'outre-mer avec énormément d'aéroports, notamment par exemple la Polynésie française.
Il faut se méfier de ces moyennes.
Je parle de la métropole. Voilà.
Je vais prendre un exemple, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une économie libérale et tous les aéroports sont publics. Pourquoi ils sont publics? Tout simplement parce que ce soit des agglomérations, des comtés ou des États considèrent que c'est un outil fondamental d'attractivité économique. Sur un aéroport comme Nantes, il serait aux États-Unis, vous auriez 7 aéroports autour de la ville de Nantes. Parce que vous auriez 2 aéroports avec des lignes régulières, un plutôt tourné vers l'Europe et un plutôt tourné vers l'international. Et vous auriez au minimum 2 aéroports d'affaires et 3 aéroports ou 4 aéroports de loisirs. Bon, c'est pas le cas en France. Donc on n'a pas une offre aéroportuaire débordante. On a une vocation par aéroport qu'il faut affiner. Ça, c'est très clair. Et il faut arrêter de dire que les aéroports coûtent de l'argent et que cet argent est un gaspillage. Vous prenez les piscines municipales, le gaspillage, il est infiniment supérieur.
Ça, c'est vrai. Mais c'est pas un argument.
Juste sur cet argument-là, simplement. La Cour des comptes, il nous explique que le seuil de rentabilité annuel... La Cour des comptes, c'est des gens extrêmement sérieux qui nous disent le seuil de rentabilité annuel est de 800 000 passagers annuels. Seuls 15 aéroports, hors évidemment Paris, bien sûr, atteignent ce seuil. La Cour des comptes, elle explique, la majorité des aéroports est en déficit chronique.
Aujourd'hui, vous avez des aéroports comme l'aéroport de Caen avec 150 000 passagers. Il est équilibré sans subvention. Donc on peut toujours trouver des contre-exemples.
Juste un mot.
Simplement, il y a une chose. Alors, c'est un problème d'attractivité de territoire.
C'est pas beaucoup quand même.
Aujourd'hui, je vais vous donner 2 chiffres. Considérons l'aviation générale, les petits ateliers. C'est une énorme PME. Imaginez que cette PME qui est répartie sur les 100 aéroports français pèse aujourd'hui 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des emplois non délocalisables que l'on retrouve à Aurillac, à Villeneuve-sur-Lot, dans des endroits qui sont entre guillemets improbables lorsqu'on les regarde à l'échelle effectivement des 90 millions de passagers de la région parisienne. La deuxième chose, c'est que les critères d'investissement des multinationales, c'est-à-dire les gens qui sont capables de relancer l'économie française et à terme de créer des emplois en France, les critères d'investissement intègrent la proximité ou non d'un aéroport accessible par un avion d'affaires ou par une ligne régulière. Si vous n'avez pas un aéroport à proximité, vous n'avez pas d'investissement. Et je vais vous citer le président de Philips, Van Houten. Je l'ai rencontré il y a quelques années. Pourquoi investit à l'époque à Caen? Là encore, puisque ma compagnie est originaire de Caen, et désolé de prendre cet exemple. Ben, tout simplement parce qu'il y avait un aéroport qui était à 30 minutes du lieu de l'investissement de l'entreprise. S'il n'y avait pas eu cet aéroport, l'investissement n'était même pas envisageable. Donc avant de rayer de la carte des aéroports, il faudrait peut-être se poser la question du réinvestissement dans les territoires et des emplois.
Ma volonté n'est pas de rayer de la carte des aéroports. Ma volonté est surtout de se poser la question, est-ce que tout ça est justifié? Alors pardon, il y a Jean-François Riel qui prenait la parole, Pascal Perry, Nicolas Polisson.
Je pense que ce que dit Alain Battisti n'est pas faux, mais c'est un problème d'équilibre, de nuance, tout ça. C'est-à-dire que, bien sûr que si un aéroport dans une ville, il va générer plus d'attractivité économique. Mais après, il y a un problème d'adéquation de la distance à l'aéroport le plus proche et d'allocation des ressources, comme l'a très bien dit Nicolas, sur les investissements et sur la dépense publique, parce que tous ces, les 15% d'aéroports qui sont à l'équilibre ou qui sont rentables, hein, ils ont été subventionnés par de l'argent public. Vous le savez très bien, pratiquement tous. Alors aujourd'hui, ils sont à l'équilibre, Rennes est à l'équilibre, vous avez raison. Nantes d'ailleurs aussi. Mais moi, par exemple, je suis convaincu, et vous allez me contredire, que si on ouvrait Notre-Dame-des-Landes, pour lequel je suis pas très favorable, mais le débat est nuancé, il est complexe, et si on ouvrait donc ce nouvel aéroport, moi je suis convaincu qu'il faudrait fermer Rennes, parce que faut être cohérent, c'est très proche, c'est sur la distance, et il faudrait être cohérent, et sans parler de Lorient et de Quimper qui sont déficitaires et pour lesquels Notre-Dame-des-Landes pourrait fonctionner, mais savent que si on ouvre Notre-Dame-des-Landes, je vais vous dire, si on fait Notre-Dame-des-Landes, on ne fermera jamais Rennes, c'est certain.
Le Canet que vous êtes, enfin en tout cas votre compagnie qui est installée à Caen, Alain Battisti, vous venez parler en tant que président de la Fédération de l'aviation marchande, mais Caen, Deauville, Le Havre, Rouen, est-ce que ces quatre aéroports sont tous, comment dire, justifiés?
Pertinents.
Voilà.
Vous avez oublié Cherbourg. Mais il n'y a plus de ligne à Cherbourg, il n'y a plus de ligne régulière au Havre, et ces aéroports ont une vocation d'aviation générale pure. Et la concentration s'est fait aujourd'hui autour essentiellement de Caen et accessoirement de Deauville pour le trafic touristique.
Touristique, bien entendu.
C'est-à-dire, on parle du maillage fin et de l'approche fine de mon
Donc, confrère. Donc, il y en a trois qui sont plus utiles, c'est Cherbourg, Le Havre et Rouen, voilà.
Absolument. Voilà.
Mmh. Donc, ils ont vocation à être fermés un jour ou pas?
Pas forcément, non. Ils ont vocation à se spécialiser.
D'accord. Comme par exemple Vatry, près de Reims, c'est spécialisé dans le fret, par exemple.
Exactement.
Pascal Péry.
Mais oui, alors parlons d'argent public. On reste sur le cas de Nantes, mais c'est vrai pour d'autres. Le réaménagement de Nantes Atlantique coûtera environ 350 millions d'euros.
C'est ça.
Plus, et ça c'est 100% de l'argent public. 100%.
Pas du tout.
Alors, en grande partie.
Pas du tout.
Non.
Les aéroports sont financés
de Nantes Atlantique.
Les aéroports sont financés par des redevances qui sont payées par les compagnies aériennes. Et aujourd'hui, on a déjà une cagnotte de 85 millions d'euros pour financer soit le réaménagement de Nantes Atlantique, soit le développement. Mais non, c'est pas de la fiscalité, c'est une redevance.
Ça paye
un service.
Ça s'appelle. Non, mais en partie. Bon, très bien. Il y a une contrepartie. On peut dire que c'est une cotisation. Il restera néanmoins. Et là. Je pense que c'est non discutable, 300 millions d'euros, voire 350 millions d'euros à payer à Vinci en matière de
dédiés. Certains disent que c'est 150.
150 à 200 millions. Voilà.
Tu as peut-être raison, hein, moi je ne dis pas.
L'argent public investi, si vous bien regardez les chiffres, l'argent public investi à Notre-Dame-des-Landes, c'est autour de 200 millions d'euros. Ce sont les passagers qui vont financer cet aéroport. Donc quand on dit utilisation de l'argent public, j'invite quand même une très grande prudence.
On parle pas forcément de Notre-Dame-des-Landes ou de leur Atlantique. On parle en général, comme l'a
exposé Fabrice Lundi,
sur l'ensemble des aéroports français.
Pardon.
Il y a eu beaucoup d'argent public dépensé dans les aéroports français. On va quand même pas dire le contraire.
Non, mais très bien. Mais ça sert à quoi? Alors, très bien. Faisons un calcul global. Parlons écosystème. On peut poser une autre question. Est-ce que l'aéroport a vocation systématiquement à gagner de l'argent ou est-ce que c'est un outil d'aménagement du territoire?
C'est un outil d'aménagement du territoire.
C'est d'abord un outil d'équilibre et de proportion.
Non, mais.
Et après, quand tu le fais pas là-dessus, tu peux faire autre chose. Tout ça, vous avez complètement raison. Mais il y a un moment donné, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que cet argent déficitaire sur les aéroports, de quatre aéroports qui sont dans le même coin, tu peux les mettre.
Non, mais très bien. Mais moi, je vais citer deux autres exemples, puisqu'on parlait tout à l'heure de Bergerac et de Limoges. Grâce à ces deux aéroports, on reçoit pratiquement 1 million de touristes étrangers chaque année, notamment des Belges. Il y a du pouvoir d'achat au nord, il y a du soleil au sud. Profitons-en d'une certaine façon. Grâce à ces aéroports, qui n'ont pas vocation nécessairement à gagner beaucoup d'argent, l'écosystème, le territoire s'est développé, a développé une économie touristique à côté de bassins historiques comme Bordeaux. Limoges n'était pas un formidable port de pêche et pourtant, c'est devenu une destination touristique. C'est même plus que ça, puisque dans ces territoires, les touristes se sont sédentarisés, ils sont devenus résidents, ils ont acheté des maisons, ils ont fait travailler des artisans, des commerçants, ils ont scolarisé leurs gamins, et donc tout ça, c'est vertueux. J'avais même calculé, Nicolas, que dans le cadre d'une étude, que les Anglais dans le Limousin, c'était un jour de PIB en plus. Ça faisait une année à 366 jours pour le Limousin. On parlait tout à l'heure des petits aéroports, Aurillac. On parlait d'Aurillac. Est-ce qu'on abandonne définitivement Aurillac? Aurillac, il y a des entreprises. Il y a des entreprises qui sont exportatrices. Vous prenez la ville de Brive, puisqu'on est toujours dans le centre France. Vous avez des succursales de grands groupes qui ont des relations commerciales avec la Chine. Leur vrai problème, qu'est-ce que c'est? c'est la connexion à Orly et à Roissy la plupart du temps, et c'est l'incapacité d'amener dans leur territoire des clients ou des fournisseurs. Donc c'est un frein au développement, et un aéroport, ça sert d'abord à ça.
Alors, Nicolas Polissen, les aéroports, Jean-François Rien, Nicolas Polissen.
Oui, je crois que les aéroports ont aussi un rôle d'aménagement du territoire, et ils sont importants pour le développement économique de ces territoires, pour le désenclavement également. Il y a des lignes d'obligation de service public entre Aurillac et Paris, entre d'autres villes auvergnates et Paris. C'est important. Ça ne peut pas être jugé, un aéroport ne peut pas être jugé que à l'aune des équilibres économiques. Je dirais également que les aéroports et le transport aérien, enfin les aéroports ont un rôle à jouer dans le développement du tourisme, c'est reconnu par le ministère des Affaires étrangères, qui a mis la connectivité aérienne comme un des moteurs du développement du tourisme en France demain. Donc ce sont tous ces éléments dont il faut prendre compte aujourd'hui.
Nicolas Bouzeau, Asterès.
Mais les aéroports, c'est formidable. Moi, j'adore, je suis passionné d'aviation, je prends l'avion 2-3 fois par semaine. Le problème, c'est pas... Est-ce que les aéroports, c'est bien ? Oui, c'est bien. Forcément, c'est bien. Simplement, on est obligé. Je suis désolé. Moi, j'ai une formation d'économiste et de macroéconomiste, donc j'essaie de voir les choses dans l'ensemble. C'est ça la difficulté. Si la question c'est est-ce qu'un aéroport c'est bon pour un territoire, je vais le dire autrement, ça ne peut pas être mauvais. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de ressources rares, et donc il faut bien qu'on mette des priorités. Il y a des domaines dans lesquels il y a des vrais besoins. J'entends bien, mais il y a
mais c'est pour ça qu'il faut des politiques aéroportuaires.
Et c'est ce que j'entends bien. Il faut aussi une coordination peut-être.
Il faut à la fois.
Mais le problème, c'est que cet argument. Attends, je t'arrête juste. Jean-François, en trois secondes.
Nicolas,
cet argument, il est insuffisant parce que on peut poser les cliniques. Pareil, les cliniques privées, elles sont payées par les mutuelles et puis par l'assurance maladie, donc c'est pas exactement l'État. Donc on peut aussi en faire énormément. Et puis les gares, on peut aussi en faire beaucoup. Donc on peut tout faire en plus. Donc il faut bien quand même, comme le dit, je sais pas si c'est l'idée que Jean-François voulait défendre, mais il faut bien à un moment qu'on ait une vision quand même globale et coordonnée des choses. Voilà. Alors par contre, moi je peux vous parler d'infrastructures dont on a besoin là, maintenant, tout de suite. Hein. Bah, la fibre, par exemple, dont a parlé le Premier ministre hier. 50% du territoire français n'est pas couvert. Ça, c'est une folie pure. Une folie pure. Alors, là, tout de suite.
Alors, Jean-François, on revient juste après avec les décodeurs.
Moi, je vais reprendre l'exemple de Pascal, qui est excellent. L'exemple d'Aurillac. Je pense qu'il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de connectivité alternative.
C'est ça.
Donc clairement, Aurillac, il faut le garder même déficitaire. Par contre, 2-3 aéroports à moins de 5 km qui sont tous déficitaires, je suis pas convaincu, Pascal. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a un problème d'arbitrage et ça rejoint ce que dit Nicolas. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut équilibrer les choses.
On élimine lesquels là ? Dans le cas du Massif central,
alors,
on élimine
lesquels ?
Non, mais je suis pas assez.
Là, il va pas faire la carte tout seul, Jean-François.
Par exemple, dans l'Ouest, clairement, il y en a pas mal.
On se retrouve dans un instant. Est-ce qu'il faut encore construire des aéroports ? Est-ce qu'il faut enfermer même ? Je ne sais pas. On va continuer le débat dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, ils ont continué le débat pendant la pause. Ils m'énervent tous. Hein. Bon, on va continuer dans un instant. Est-ce qu'il faut encore construire des aéroports ? Est-ce qu'il va falloir en fermer ? Est-ce qu'il y a trop d'aéroports en France ? On est parti de l'actualité autour de Notre-Dame-des-Landes, mais au-delà. Juste, Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, puisque... On en parlait avant-hier, c'était le sommet de la planète organisé par Emmanuel Macron à Paris. Vous nous annoncez, vous, chez Voyageurs du Monde, qu'à partir du 1er janvier, donc dans deux semaines maintenant, les émissions de CO2 générées donc par les voyages, que ce soit les voyages en avion ou les voyages terrestres, peu importe, réalisés par VDM, ils vont être compensés à 100%. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent ? Qu'est-ce que vous allez faire alors ?
Alors depuis 10 ans, on le faisait à hauteur de 25-30% parce qu'on considérait que... En fait, la problématique, elle est simple. C'est la problématique du réchauffement climatique. Ouais. Moi, j'estime que c'est pas un sujet écologique. C'est un sujet extrêmement grave qui peut remettre en cause l'avenir de l'humanité. Mmh. C'est-à-dire que on a toujours parlé du réchauffement climatique en hausse de température. Donc finalement, les gens qui étaient au bord de l'eau... Et ça s'inquiétait. Et puis ceux qui étaient dans le nord à Lille se disaient, je vais avoir des oliviers. Mais finalement, les gens n'ont pas pris conscience de la gravité de la rupture de la chaîne alimentaire et de la destruction de biodiversité que ça générait. Et donc que ça pouvait remettre en cause l'existence même d'Homo sapiens. Bon. Donc moi, je trouve ce sujet très grave. Et donc, Il y a plein de gens qui sont venus me voir, des grands experts écologiques, qui m'ont dit, des grands ingénieurs, qui m'ont dit, en fait, faut plus qu'on prenne l'avion. Faut plus qu'on prenne l'avion. Pourquoi? Parce que si vous considérez que on peut émettre encore tant de tonnes de CO2 et que vous les ramenez à chaque être humain par an et par personne, ben quand vous faites un aller-retour à New York, vous consommez deux fois votre quota. Bon. Donc, on a un vrai problème de fond. Donc, comme on n'a pas l'intention d'arrêter de voyager, en tout cas, qu'on considère que ça a une utilité sociale majeure, à la fois économique et aussi de rapprochement des cultures des peuples et de tolérance, eh bien, on s'est dit, on va continuer de voyager, on va essayer de le faire de façon un peu plus optimale. D'ailleurs, ça rejoint ce débat qu'on a sur les aéroports. Hein. Bon. Et en clair, on a décidé que nos voyages, tous nos voyages, seraient neutres en termes de carbone. Et comme on ne peut pas l'éviter pour l'instant, parce qu'on n'a pas les technologies dans l'industrie aérienne qui nous évitent d'émettre du CO2, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la compensation, c'est-à-dire qu'on plante des arbres dans des endroits où ils n'auraient jamais été plantés, avec ce qu'on appelle la fameuse additionnalité, c'est-à-dire l'absorption de CO2 qui n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas fait ça.
En Inde et en Indonésie.
En Inde, en Indonésie, au Sénégal, voilà, etc. Et sur des durées très longues, parce que on annule les crédits de carbone qu'on génère. Et à mon avis, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que cette affaire de Notre-Dame-des-Landes, pour revenir aux aéroports, tout le monde en parle, tout le monde se concentre dessus, mais en fait, c'est un petit sujet, un micro-sujet dans la problématique écologique globale sur laquelle il faut s'intéresser. C'est-à-dire que si on construit Notre-Dame-des-Landes ou qu'on augmente la Loire-Atlantique, il n'y a pas beaucoup d'écart écologique. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écart écologique.
Juste une remarque, Jean-François.
Pascal Péry.
Le secteur du transport aérien, notamment les motoristes, ont fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, pratiquement, on consomme moins de 2 litres au 100. L'équivalent de 2 litres.
On considère que le transport aérien est responsable d'environ 3-4%.
Non, c'est un peu plus maintenant. C'est 6%. C'est environ ça. Bon. Ça a presque doublé. Bon. C'est presque 6% des émissions de gaz à effet de serre. Mais, le secteur de l'automobile a fait des progrès aujourd'hui. J'observe que le secteur de la mobilité est celui qui a fait les plus grands progrès et c'est toujours celui qui est mis en accusation. En réalité, les sources principales de pollution et de diffusion de CO2 dans le monde, c'est les problématiques de logement, d'isolement, c'est les problématiques industrielles sur lesquelles, à mon sens, les pouvoirs publics pourraient prendre des actions encore plus rapides.
On va revenir sur...
formidable initiative de voyageurs du monde. Formidable.
Voilà qui est dit, c'était l'actualité aussi du jour, l'actualité de la semaine. Est-ce qu'il faut encore construire des aéroports? Alors, tiens, qui est-ce qui me disait tout à l'heure? C'est pas vous, Jean-François Rial, qui me disiez qu'il y a de plus en plus de monde qui allait habiter dans la région ouest. Et c'est Jean-Marc Ayron encore qui le disait hier, compte tenu de l'attractivité de l'ouest. Est-ce que ça s'accompagne nécessairement d'une hausse de trafic?
Oui, toujours, bien sûr. Parce que d'abord, ça veut dire plus de jeunes, ça veut dire plus d'étudiants. On est dans un système aujourd'hui qui est un système d'échange, c'est-à-dire plus d'activité économique. Il y a une espèce de prime quand même à la démographie dans ce domaine, dans le domaine du développement des territoires. Et comme il y a déjà dans cette région des entreprises du secteur de la chimie, du secteur de la mécanique, du secteur de l'aéronautique, qui sont développées, il y a une demande de mobilité. Maintenant, en effet, il ne faut pas, je crois, se focaliser, comme ça a été le cas sur Notre-Dame-des-Landes. Il ne faut pas en faire un débat passionnel. La question, c'est de savoir ce que ça coûte, si c'est utile, s'il y a une alternative crédible. Et c'est plutôt sur la question de l'alternative crédible que, moi, je formule un certain nombre de réserves. La première, c'est que la tendance des aéroports urbains décroît. Or, Nantes-Atlantique est en ville et compte tenu des phénomènes d'étalement urbain, de dilatation horizontale des villes, très rapidement, on va se retrouver avec un aéroport qui sera enserré dans les populations. On a un plan d'exposition au bruit aujourd'hui de 30 000 personnes et il va probablement doubler. Il y a beaucoup d'autres externalités négatives. Est-ce qu'on fait un autre choix? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, le débat est trop passionnel, Fabrice.
Tout juste.
Pas assez rationnel.
Tout juste. Alors, c'est le Conseil supérieur de l'aviation civile, dont on parlait tout à l'heure, qui plaide pour réduire le nombre de plateformes qui accueillent un trafic passager commercial régulier insuffisant. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut faire des arbitrages? Tiens, Nicolas Polisson, délégué général de l'Union des aéroports français. La question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'il faut en construire des aéroports? Et je pose cette question, est-ce qu'il faut en fermer? Et selon quels critères?
Les régions...
Il faut redéfinir la vocation de chaque aéroport.
Voilà. Nous, notre position, elle est claire. Il ne faut pas fermer d'aéroport, il faut travailler sur leur vocation, trouver des complémentarités entre les plateformes. C'est aux régions de le faire pour les aéroports qui sont propriétés des différentes collectivités locales. On a toujours dit que c'était une des lacunes de la révolution, enfin des lois aéroportuaires de 2004-2005, de ne pas transférer la propriété aux régions ou de ne pas donner aux régions un rôle dans le réseau aéroportuaire. Il faut aussi noter que le réseau aéroportuaire français a permis la révolution du transport local, ce qui a été aussi un formidable outil de démocratisation du transport aérien. C'est aussi parce qu'on pouvait atterrir dans des aéroports dits secondaires. Donc il y a ce rôle-là dans cette histoire qu'il faut souligner.
Nicolas Bouzou à la tête du cabinet Asterès.
Il y a une autre alternative, hein, c'est d'utiliser davantage les aéroports qui existent, parce qu'on a des marges de progression qui sont très importantes, notamment tout simplement à Paris. Il faut savoir que le trafic aérien à Orly et à Roissy n'est pas très important, eu égard au nombre de pistes. C'est lié à des raisons d'organisation du trafic aérien. Alors, ce sont mes amis pilotes de ligne qui m'expliquent ça, mais en permanence, qui m'expliquent qu'il y a une très mauvaise gestion du trafic aérien. Il y a deux blocs de trafic aérien, grosso modo, qui sont relativement isolés, Orly et Roissy, qui sont assez mal coordonnés, ce qui est très différent de ce qui se fait à Londres. Et du coup, à Londres, d'ailleurs, c'est très amusant, vous pouvez le voir, vous savez, il existe des applications qui permettent de voir le trafic aérien.
En temps réel, ouais.
Jetez un coup d'œil sur le trafic à Heathrow et à Roissy, vous verrez que le trafic est beaucoup plus dense à Londres. Donc je pense qu'on a aussi...
Là, on parle de Paris, mais par exemple, ça répond pas à la question, est-ce qu'on maintient l'aéroport de Dijon, alors, de Dole, d'Argentan ou d'Aurillac, hein.
Je connais mal le trafic aérien d'Argentan, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je sais. Mais on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que ce qui est vrai à Paris... peut-être, est vrai aussi dans d'autres aéroports.
Oui, tiens, justement, Alain Battisti, à la tête de la Fédération nationale de l'aviation marchande, pour faire suite à ce que disaient à la fois Nicolas Polissen et Nicolas Bouzou, est-ce qu'on pourrait accroître, quelque part, le trafic pour justifier le maintien d'aéroports? Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire davantage, ou en tout cas mieux, par exemple, sur certains aéroports de province, en multipliant les droits de trafic vers l'étranger? Est-ce qu'on peut compter davantage sur le low cost? On voit EasyJet, par exemple, qui a ouvert cette année une dizaine de nouvelles dessertes en France même, justement. Est-ce qu'on peut compter sur tout ça pour dire à un moment, bah voilà, tous ces aéroports, ils vont être beaucoup mieux utilisés?
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les aéroports sont de mieux en mieux utilisés. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Orly. Vous avez un nombre d'avions qui est limité aujourd'hui à 250 000 mouvements, et pourtant, vous avez davantage de passagers chaque année. Et vous n'avez pas plus d'avions. Et vous avez moins de bruit. Le bruit à Orly sur les 12 dernières années a été divisé par deux. C'est quand même incroyable, mais c'est un bruit mesuré scientifiquement. Bon, donc tant mieux, la performance écologique de l'aérien, elle est exceptionnelle. Alors pourquoi on fait plus de passagers sur une même plateforme, et en particulier à Orly? C'est parce qu'on a des avions qui sont de plus en plus gros. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on les remplit de mieux en mieux. C'est-à-dire que les compagnies font leur job de mieux en mieux. Et donc on réduit notre empreinte carbone, en fait, de façon globale. Après, la demande, elle continue d'exister. C'est-à-dire que les passagers sont au rendez-vous, les clients, les gens ont envie de voyager. Et le développement du low cost, en particulier, induit des envies de trafic.
C'est une opportunité pour vous, justement, pour tous ces aéroports français.
C'est une demande. Ça vient de la part des clients qui ont envie de voyager, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Et aujourd'hui, lorsque vous offrez un aller-retour possible au départ d'Orly vers New York à 550 euros, bah vous créez une clientèle, alors qu'il y a 30 ans, c'était 3000 euros.
Ils n'y allaient pas.
Donc vous n'y alliez pas. Ça, c'est un énorme changement, en fait. Et c'est vrai que les low-cost sur le moyen courrier ou le court courrier, maintenant sur le long courrier, sont en train d'augmenter cette évolution.
Jean-François Rial, voyageur du monde.
Non, je reviens vite sur votre question. Faut-il fermer des aéroports en France ou en ouvrir? Il n'y a aucune activité économique qui ne vit pas la vérité de l'impermanence, la vie et la mort. Aucune. Ou alors les aéroports feraient exception en France. Donc il faut, à mon avis, enfermer
qu'on considère,
et en ouvrir.
Je crois que c'est une mission de service public, justement.
Oui, mais même dans le service public, on a assez reproché au service public d'être incapable de s'adapter. La vérité économique, c'est l'adaptation. Donc il faut fermer certains aéroports et en ouvrir d'autres et en rénover d'autres. C'est la seule vérité. Et les aéroports seront rentables s'ils ont une clientèle. Et ça se décrète pas.
Non,
c'est du marketing, c'est de la mise en scène, c'est de la promotion. Il est effectif. Tout à fait ce qu'a dit Pascal tout à l'heure sur le fait que, par exemple, il y a eu un succès incroyable de la ligne Bristol-Limoges. Mais il faudrait quand même faire le calcul économique à coût complet, Pascal, parce que nos amis de Ryanair sont tellement bons qu'ils touchent des subventions du conseiller général du Limousin
par passager qui prend les vols Ryanair pour atterrir à Limoges. Mmh. Donc c'est peut-être quand même rentable, c'est possible.
Ça l'est,
pas forcément
mais...
contre. Mais en tout cas, il faudrait faire le calcul complet.
Ça pose aussi la question, quand une collectivité est mise sur un aéroport, est-ce qu'elle n'a pas tendance à surévaluer donc, la fréquentation, l'impact et quelque part dépenser plus? Non, Nicolas Pouzou.
Non, mais elle surévalue, mais c'est pareil avec les lignes LGV, elle surévalue l'impact économique que ça aura. C'est-à-dire qu'au fond, le raisonnement des élus, c'est de se dire... On en a absolument besoin. Ouais. Ou sans aéroport ou sans ligne LGV, pas de développement économique. Et quand je regarde,
alors qu'on ne le sait pas, le fameux Conseil supérieur de l'aviation civile, encore lui, qui dit voilà, est-ce que ça rapporte des emplois, par exemple?
C'est très
personne
discuté.
Ne le sait, c'est flou.
C'est très
voilà.
discuté. Mais après, je suis quelqu'un de mesuré. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Simplement, on entre dans une période très intéressante où on essaie d'avoir une vision plus fine des coûts et avantages des investissements. Et donc c'est ça, pas évident. C'est pas.
Moi, je pense que ça rapporte des emplois. La question, c'est est-ce que ça, on pourrait pas en avoir encore plus en faisant autre chose.
Ah, autre chose. Alors, Nicolas Polissen, les aéroports de France.
La ministre des Transports va organiser des assises du transport aérien au premier trimestre de l'année prochaine. D'où la question qu'on La question qu'on va porter, c'est pas celle de savoir s'il y a trop d'aéroports en France, c'est celle de la performance de l'écosystème du transport aérien français, aéroports et réseaux aéroportuaires compris. Et là, la question qui se pose, c'est celle de la compétitivité des aéroports français par rapport à leurs concurrents européens, voire mondiaux, pour un aéroport comme le hub de Roissy. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui pour le transport aérien et les aéroports.
Rapidement, je voudrais quand même ajouter qu'on ne peut pas construire de nouvel aéroport aujourd'hui. La loi Grenelle l'interdit.
Ah.
Le seul aéroport qui pourrait faire exception, c'est Notre-Dame-des-Landes. Mais la loi aujourd'hui interdit de construire de nouveaux aéroports. Oui. Donc la question, elle est résolue par la loi.
Est-ce qu'on peut multiplier le nombre de lignes? Par exemple, tiens, Nicolas Bouzou,
Le VUP arrive à échéance fin janvier.
Au moment, vous en parliez, on va restreindre, voire interrompre des projets ferroviaires.
Oui.
Est-ce que l'aérien est amené à se développer? C'est plus facile d'ouvrir une ligne finalement qu'on
fait
une TGV.
Ça, c'est sûr pour le coup. Alors là, je vais faire plaisir à nos amis quelques kilomètres de béton, avec 3 kilomètres de béton, vous pouvez aller à l'autre bout du monde avec un avion, alors qu'une ligne LGV, c'est autrement plus complexe. Donc là, l'avion, évidemment, a un avantage comparatif. Mais ce que je voudrais dire juste sur les assises du transport aérien, parce que tout le monde autour de la table s'est moqué. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que Nicolas Polissen a tout à fait raison. Il faut qu'on ait une vision de l'écosystème vraiment du transport aérien en France. On l'a pas. Et moi, ces assises du transport aérien, j'en attends vraiment beaucoup. On a un problème de pavillon français. Du transport aérien. Je suis persuadé que ça va être passionnant et peut-être même utile.
On maintient le même nombre d'aéroports, 160 en France.
En plus, je pense qu'on est en train de sortir d'une période qui était le tout ferroviaire lancé par le Grenelle de l'environnement. On redécouvre les autres modes de transport. C'est très net dans les discours qu'on peut entendre des pouvoirs publics et notamment du ministère des Transports. Et ça, c'est une chance évidemment.
Donc, il y a toujours
pour
besoin
les aéroports et pour le transport aérien.
Rien, oui, non.
Nicolas est très attaché à la vertu économique. Ouais. Le transport aérien est par nature une activité qui est fiscalisée. Alors que le transport ferroviaire est par nature une activité qui est subventionnée.
Nicolas,
donc quand on parle d'argent, moi je dis non, on fait un inventaire précis.
Oui, et après on décide.
Et après on décide.
Chacun un mot, vite.
Non, mais Jean-François a mille fois raison. Il faut regarder la rationalité économique de tout ça. L'aménagement du territoire, attention, parce qu'on c'est toujours l'argument pour dépenser plus.
Oui, ça peut.
Voilà.
Le pavillon français souffre de coûts non compétitifs parce que l'État empêche la compagnie nationale de prendre les décisions qui s'imposent. Oui. On n'a pas besoin de faire assise du tourisme de l'aérien pour faire ça.
Allez, c'est bon. Voilà. Au revoir.
On doit avoir l'État qui sort de la compagnie nationale.
Allez, c'est fini, les amis. Merci Pascal Péry, donc à la tête de son cabinet PNC, il est économiste. Nicolas Bouzou, donc son cabinet d'études économiques Asterès. Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Et Nicolas Polissen, délégué général de l'Union des aéroports français. C'est fini pour les Décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.